Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Livre de Jean, chapitre 1, au verset 18. Est-ce qu'on peut y aller? Que quelqu'un dise avec moi la grâce surabondante. C'est notre verset de référence où il est dit, Jean 1, au verset 18, « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Par Jésus-Christ. Et on a dit beaucoup de choses sur le sujet. Et depuis maintenant 3 semaines, nous sommes arrêtés sur ce point. Les 21 caractéristiques de la grâce surabondante. La grâce surabondante, pour redonner la définition, c'est cette grâce particulière, illimitée, sans mesure, inconditionnelle, sans distinction de personne, que Dieu a déversé sur nous. On a fait la différence, la distinction entre une simple faveur et la grâce surabondante. Une simple faveur, c'est une grâce que l'on accorde à quelqu'un dans une circonstance spécifique, à un moment spécifique, pour une raison spécifique. Mais on n'a pas une relation particulière, on n'a pas de relation avec cette personne. On veut juste l'aider pour un temps. C'est une faveur. Quelqu'un te demande de l'argent et il t'accorde une grâce. D'accord? Mais la grâce surabondante, c'est celle que Jésus-Christ a manifestée pour nous. Et cette grâce-là, ce n'est pas un concept. Ce n'est pas juste un mot. C'est bien plus qu'un simple mot. Cette grâce surabondante, nous l'avons définie, c'est une personne. Dis avec moi, c'est une personne. En la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la grâce. Il n'a pas la grâce, il est la grâce. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie et il est la grâce. Dis avec moi, Jésus est la grâce. Donc quand tu expérimentes la grâce de Dieu, tu expérimentes Jésus-Christ. Et cette grâce surabondante, Dieu l'a déversé sans mesure sur nous. Et tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on l'accepte. Et tu vas voir que quand tu acceptes la grâce surabondante de Dieu dans ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu n'es plus stressé. Le message de la grâce, c'est le message du royaume. Et le message de la grâce, c'est le message de la libération. Parce que trop de gens sont frustrés. Et beaucoup de gens, pour la plupart, lorsqu'ils arrivent dans le royaume, après leur nouvelle naissance, ils viennent frustrés. Avec des préjugés, avec tout un tas de choses dans la tête, des situations, des complications, etc. Des problèmes. Ils viennent en larmes, etc. Et les gens, quand ils arrivent dans beaucoup d'églises, malheureusement pour eux, pour beaucoup, tombent dans des églises où on leur enseigne que les choses telles que la réussite, l'acquisition de matériel, l'argent, les percées sociales, etc., ne sont que le résultat de nos efforts, d'actions que l'on pose, de stratégies que l'on met en place, etc., etc. Et on retrouve aujourd'hui des gens dans l'église qui essaient de faire beaucoup de choses pour réussir dans les affaires, pour réussir dans leur mariage, pour réussir dans leurs emplois, etc., etc., et qui n'y arrivent pas et qui finissent frustrés. Mais le message de la grâce est un message qui nous annonce que tu n'as pas à être frustré, parce que tu dois comprendre une chose, c'est que tout ce que tu veux acquérir là, tout ce qui pour toi est censé t'apporter du bonheur dans la vie, eh bien ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Amen. Donc le jour où tu, c'est pour ça que Paul dit dans Romains 9 au verset 16, Paul dit, cela ne dépend pas de celui qui fait des efforts, mais de la grâce divine. Donc, on est plus le plus souvent dans les efforts et on finit frustré parce qu'on n'acquiert pas des résultats. On n'obtient pas de résultats. Pourquoi, par exemple, l'une des réunions à l'église les moins peuplées, c'est les réunions de prière? Pourquoi beaucoup de gens ne prient pas? Parce que les gens prient, demandent des choses et n'obtiennent rien. Ils se frustrent et ils arrêtent de prier. Et Jacques dit que vous n'obtenez rien parce que vous demandez mal. Mais c'est quoi demander bien? Eh bien, demander bien, c'est se baser sur la base de la parole de Dieu et dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu le fais dans ma vie. Point. Je n'ai pas besoin de demander ou d'insister. C'est-à-dire que si tu me donnes, tant mieux. Si tu ne me donnes pas, tu te rends gloire aussi. Je me contente du peu que j'ai dans la vie et je te rends grâce aussi pour la prospérité. Vous n'avez jamais vu des églises où... Moi, j'ai regardé une église. Un jour, j'étais en regardant un message sur Internet et puis dans l'église, une église de près de 20 000 personnes et puis le pasteur dit, nous allons tous nous lever et puis nous allons appeler l'argent ici. Argent, viens! Je dis, c'est quoi cette prière? Depuis qu'on appelle l'argent, tu le vois tous fauchés comme ils sont. Argent, viens! Tu sais, l'argent ne viendra jamais si tu l'appelles comme ça. Hein. L'argent, il faut le travailler pour l'avoir. Hein. Si tu travailles, ce n'est pas en restant là dans ton église à crier, argent, viens, et puis maintenant tu t'assois, maintenant j'attends que l'argent va arriver. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut créer un business, il faut aller travailler, voilà, tu sais, faut faire des choses. Hein. Donc, les gens sont plus dans des choses comme ça. En fait, qu'est-ce que j'essaie de nous dire? Quel est mon propos? Mon propos n'est pas de remettre en question ce qu'on entend ailleurs, d'accord? Ce n'est pas du tout ça mon propos. Gloire à Dieu pour ce que les autres font. Mon propos, c'est d'amener à nous faire comprendre que quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on organise, quel que soit ce à quoi on s'attend, on doit toujours comprendre qu'il s'agit d'abord de la grâce de Dieu. Et quand tu acceptes que tout est grâce divine, alors la frustration s'en va, le stress s'en va et tu travailles avec la paix, tu fais les choses avec la paix. Quand un couple par exemple est marié depuis des années et n'arrive pas à avoir d'enfants, ça crée de grosses frustrations dans le couple, des inquiétudes, etc. Mais quand Dieu un jour se révèle à toi et te dit c'est seulement ma grâce, et tu acceptes. Tu dis, ah, si tu veux me donner une progéniture, gloire à Dieu. Si tu ne veux pas me donner, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très important de comprendre ça. Et on est rentré dans les 21 caractéristiques de la grâce. Je n'ai pas envie de faire le résumé des deux dernières semaines, sinon on n'a pas fini. On a dit que la première caractéristique de la grâce surabondante, c'est que la grâce surabondante fait de toi un être humain rempli de la nature divine appelée la nouvelle création. Dis avec moi la nouvelle création. Quand tu expérimentes la nouvelle naissance, il y a une transformation, une recréation. Et tu deviens fils héritier du royaume, fils de Dieu. Jean 1 au verset 12, « Ainsi ils ne sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ils sont nés du Saint-Esprit. » Tu deviens une nouvelle création. La deuxième caractéristique qu'on a évoquée, c'est que la grâce surabondante nous rétablit à notre statut de fils héritier dans le royaume de Dieu. Un statut qu'on avait perdu à cause de la trahison de notre grand frère Adam. Oui, c'était ton grand frère. Et il a désobéi. Et parce qu'il a désobéi, nous avons perdu ce statut-là de fils héritier. Mais lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, il nous rétablit à ce statut-là, à cette position divine-là. Ainsi, quand tu te regardes dans le miroir, ne regarde pas à ta condition naturelle. Ne regarde pas à l'argent que tu n'as pas. Ne regarde pas aux personnes qui t'ont tourné le dos. Ne regarde pas aux gens qui te disent que tu es incompétent ou incapable. Ne regarde pas à ça. Regarde à ta position divine, parce qu'il est écrit dans Éphésiens 2 que il est mort et il nous a ressuscité. Il est ressuscité et il nous a ressuscité ensemble avec lui et il nous a fait asseoir ensemble avec lui à la droite de Dieu. Donc, au moment où je te parle, tu es assis à la droite de Dieu. Donc, tu opères selon ta position. Quand tu ouvres la bouche pour prier, tu pries selon ta position. Tout à l'heure, quand on a prié à 8 heures, quand on a prié, on a dit on se tient à la brèche et nous prenons maintenant position et autorité en Christ pour briser toutes les alliances qui ont été tissées pour maintenir toute cette commune et cette ville de Libreville dans l'aveuglement et dans l'ignorance. Et nous brisons ces alliances dans le nom de Jésus. Quand on prie là, on sait de quoi on parle. Tu te tiens et tu regardes, tu dis toute alliance qui a été faite pour maintenir la commune d'Akanda, Libreville et le Gabon dans l'ignorance et dans l'aveuglement, je brise ces alliances au nom de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'était le rôle de Jean-Baptiste, celui qui préparait le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste, c'était un guerrier de la prière, celui qui devait préparer la venue de Christ. Mais vous imaginez pas comment c'est pour ça qu'il s'habillait en peau d'animaux, tout ça. C'était sa tenue de guerre. Il ne pouvait pas mettre des costumes. Parce que lui, il priait que la nuit. Et il luttait. Donc il fallait qu'il ait une tenue. Tu vois, non? Donc, il nous rétablit à notre statut de fils héritier. Fils héritier, pourquoi? Parce que nous avons un héritage. Toute la Bible nous parle que d'héritage. Nous avons un héritage en Christ. Et cet héritage est disponible. Héritier des promesses par la foi, enseignement du mois de novembre. Cet héritage est disponible. Et cet héritage, Christ nous le redonne en tant que fils héritier. Amen. La troisième caractéristique qu'on a évoquée, c'est que la grâce surabondante nous donne un nouveau accès à nos droits légitimes. Et je crois que c'est là qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Voilà. À nos droits légitimes. De quel droit? Le droit d'accès au royaume. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 5 au verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. » Aujourd'hui, le royaume est ouvert, disponible. Tu ne le vois pas de tes yeux physiques, il faut le voir par l'esprit. Et quand tu commences à entrer en profondeur dans la méditation de la parole de Dieu, tu vas voir qu'il y a des choses qui te sont révélées par rapport à ta vie. Tu vas te rendre compte que le royaume de Dieu est bien réel. Quand Jésus-Christ est venu et guérissait les gens de toutes sortes de maladies, tu penses que c'était quoi? C'était l'évidence, la preuve, la manifestation qu'il y avait un autre royaume qui opérait. C'est-à-dire, les gens vivaient de toutes sortes de maux, de problèmes et de difficultés. Jésus-Christ arrive, il règle les problèmes comme... Il guérit les malades, il redonne la vie aux aveugles, il fait marcher les paralytiques. Jésus-Christ l'a fait. Et on le voit encore aujourd'hui. Va aux croisades de Renard Bonquet, tu vas voir. Ah oui. Moi, j'ai vu de mes yeux comme ça les pieds de quelqu'un pousser. Tu sais ça? Est-ce que tu crois ça? Il avait un pied plus court que l'autre. L'évangéliste était là, sur la chair. Il a regardé l'église. Il a dit, vous êtes trop spirituel, vous n'êtes pas plus spirituel que Dieu, vous savez. Dieu est vivant. Dis avec moi, Dieu est vivant. Il a appelé la personne qui avait le pied plus court que l'autre. Il l'a fait asseoir sur une chaise devant tout le monde. Il a dit, allonge tes pieds. Quand il a allongé ses pieds, tout le monde a bien vu que le pied était plus court. Et puis donc, j'étais bien devant. Donc, je savais qu'il ne pouvait pas mentir. Il a prié. Il a regardé le pied. Il a pointé son doigt. Il a dit au nom de Jésus-Christ, maintenant, pousse devant tout le monde. Pousse. J'ai dit, ça, faut que je vois ça. Il faut que je vois ça. Je me suis même sorti de mon micro, je suis venu devant pour regarder. Il faut que je vois ça. On a attendu quelques secondes. Il était là, pousse au nom de Jésus. Tout d'un coup, on voit le pied qui fait ta, ta. Et la personne commence à crier, oh! Ça a duré près de 3 minutes. Ta, 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 ta. Et il s'est mis au même niveau que l'autre pied. Je suis resté comme ça. J'ai dit, ça, Jésus est vivant. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on a loué le Seigneur après. Donc, il faut le voir pour le croire. D'accord? Mais il faut aussi le croire sans l'avoir vu. C'est très important. Donc, cette grâce-là, elle nous donne accès à notre héritage. Dans notre héritage, il y a tout type de promesses. D'accord? Et nous avons un droit légitime en tant que fils de Dieu de posséder cet héritage-là. Et aujourd'hui, il y a certaines choses que tu n'expérimentes pas dans ta vie parce que tout simplement, tu ne t'es pas encore levé dans la prière pour dire à Dieu, Seigneur, maintenant je possède ça au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses, des percées, des promesses qu'il te faut simplement accepter. Moi, par exemple, il m'arrive d'oublier des petits billets dans ma poche. Et quand je remets le pantalon quelques jours après, je mets la main dans la poche et je retrouve des billets. Et j'ai toujours un petit jeu que je me fais à moi-même, c'est « Oh Seigneur, je suis dans l'abondance. Je trouve même de l'argent perdu dans mes poches. » Et je le déclare, je le crois. Je le crois tellement fort que je m'attends à ce que ça se manifeste dans ma vie. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire, avant même que la chose arrive dans ta vie, il faut déjà que tu te vois dans l'esprit opérer avec ça. Il faut que tu te vois dans l'esprit. Bon, ne commets pas l'erreur que j'ai commis un jour lorsque j'étais à un entretien d'embauche et que j'avais le directeur général de la société qui m'interviewait. Et puis, il me demande, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Et puis, je lui ai répondu, à votre place, monsieur. Et là, il m'a regardé, il a fait, jeune homme, on va vous rappeler. Il ne m'a jamais rappelé. Il a eu peur pour son poste parce qu'il m'a trouvé très ambitieux. Gloire à Dieu. Amen. La quatrième caractéristique, on va avancer. Il y en a 21, mais je prends mon temps. Je vous l'ai dit au début, parce que je veux vraiment que chaque point, on comprenne bien. La quatrième caractéristique de la grâce surabondante, c'est qu'elle restaure notre intimité avec le Père que Adam a perdu en Éden. Dis avec moi l'intimité. Cet aspect est extrêmement important. Lorsque tu viens au Seigneur, et que lorsque tu rencontres Jésus-Christ et que tu viens au Seigneur, il y a un aspect de la relation avec Dieu qu'on appelle l'intimité. Tout le monde n'est pas intime avec Dieu. Bien que l'intimité, Dieu la donne à tout le monde. Tout le monde a accès à l'intimité de Dieu. Tout le monde peut avoir accès au cœur de Dieu. Mais tout le monde ne veut pas, comment dire, le prendre. Qu'est-ce qu'on appelle l'intimité? L'intimité, c'est avoir accès aux secrets. C'est avoir accès aux pensées cachées. Tu vas te rendre compte que pour ceux qui sont mariés, qu'il y a une intimité que l'époux et l'épouse seuls connaissent. On peut être là, mon épouse est là, elle va me jeter un regard sans qu'on se parle, mais je comprends ce qu'elle dit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intimité. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette intimité-là, c'est ce dont t'as voulu parler notre jeune homme sur Facebook lorsqu'il a dit que l'épouse voit la cuisse de l'époux. Psaume 8 au verset 4. Prends nos bibles. Psaume 8 au verset 4. Psaume 8, au verset 4, il est écrit, « Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Amen. La version française courante dit, quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur. Il parle de toi ici. Si c'est pas ça. Amen. Donc, Dieu t'accorde de l'importance à tel point qu'il décide de te faire rentrer dans le secret. C'est pour cela que la différence entre un non-croyant et un croyant, c'est que le croyant a la capacité d'entendre la voix de Dieu. Je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Le croyant ne peut pas comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans l'intimité. Le chrétien est dans l'intimité. Où est-ce que je veux dire? Toi, quand tu pries, tu reçois des choses dans ton esprit. Tu vois des choses. La nuit, quand tu dors, tu as des songes. Parce que tu es dans l'intimité et l'époux te parle dans l'intimité. Le non-croyant ne peut pas comprendre ces choses-là parce qu'il n'est pas dans l'intimité. Et la grâce surabondante, lorsque tu l'expérimentes, lorsque tu la rencontres, elle rétablit cette intimité-là qui était perdue lorsque tu étais dans le monde. Amen. L'intimité avec Dieu, c'est ce que nous devons poursuivre tous les jours parce que c'est ce que le Père désire. Le Père veut qu'on le connaisse. Dis avec moi, le Père. Il veut nous révéler ses pensées. Le secret de la réussite de Jésus-Christ, c'est qu'il passait énormément de temps avec le Père. Jean au chapitre 5 dit « Je ne fais que ce que je vois mon Père faire ». Beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas dans nos vies, parce qu'on ne passe pas du temps dans l'intimité avec lui. C'est quoi passer du temps dans l'intimité avec Dieu? C'est juste être là et passer du temps dans l'intimité avec lui. L'intimité, chacun a son intimité. Élie, son intimité, c'était mettre sa tête entre les jambes et là-bas, il entendait la voix de Dieu. Au point où il a réussi à arrêter la pluie pendant 3 ans. Toi, ton intimité, ce ne sera pas la même chose. L'intimité de quelqu'un d'autre, ce sera juste d'être là, assis, rester dans le calme et méditer, penser. L'intimité de quelqu'un d'autre, ce sera d'être étendu par terre et être en train de pleurer et dire, « Oh Dieu, je te veux, je veux te voir à l'œuvre de ma vie, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, etc. » Chacun a son intimité avec Dieu. Amen. Et dans cette intimité-là, le cœur de Dieu nous est révélé. Dieu se révèle à nous, Dieu nous parle. Dieu nous fait connaître ses pensées. Et l'intimité, c'est quelque chose qui ne se définit pas. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se vit. Je ne peux pas vous expliquer mon intimité avec Dieu. Il y a par exemple des choses que j'ai expliquées ici que je ne comprenais pas avant. Et aujourd'hui, je les explique. Comment j'ai fait pour les comprendre? Parce que je passe du temps dans l'intimité avec Dieu. Et chacun d'entre nous aussi, on a accès à cette intimité-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tu es intime avec Dieu, il te parle aussi même par rapport aux choses de ta vie, ton travail, les gens que tu fréquentes, des projets. Et quelqu'un qui est vraiment intime avec Dieu, c'est quelqu'un qui, quelle que soit la situation dans la vie, dans sa vie, quel que soit le projet, quelle que soit la situation, il va toujours dans l'intimité pour remettre ça entre les mains de Dieu et dire, Père, qu'est-ce que tu en penses? Parce que quelqu'un qui est très intime avec toi, c'est quelqu'un pour qui son avis est important pour toi. Tu ne fais rien sans lui demander. Et ça, c'était la force de Jésus-Christ. Jésus-Christ se levait très tôt le matin. Livre de Marc au chapitre 1 au verset 35. Il se leva quand il faisait encore nuit noire. Ça, c'était l'intimité de Jésus. Il priait la nuit. Et la nuit, il s'isolait, il était seul. Moi aussi, j'aime bien prier très tôt le matin. Et depuis un certain temps, je suis dérangé par un coq. Je n'ai pas encore attrapé mon fameux coq dont je vous parle chaque dimanche. Pour ceux qui viennent pour la première fois, il y a un coq qui est arrivé. J'ai demandé à tous les voisins derrière chez moi, c'est à qui le coq là? Ils ont tous dit, on ne sait pas d'où vient le coq là. Je commence à me demander si ce n'était pas un sorcier qui se lève le matin pour nous embêter. Mais il perturbe la tranquillité du voisinage, ce coq. J'ai dit à l'un de mes travailleurs, je te donne 20 000 francs si tu m'attrapes ce coq et que tu me le jettes loin parce qu'il me dérange. Donc, chacun son intimité avec Dieu. Dis avec moi l'intimité. La Bible dit dans le psaume 27 au verset 8, mon cœur, c'est David qui parle, il dit, mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Français courant dit, je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, Seigneur, je me tourne vers toi. Voici quelqu'un qui était intime avec Dieu. Amen. Voir la face du Père dans l'intimité est la chose la plus puissante. Jésus-Christ a dit, personne n'a jamais vu le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Il n'y a que le Fils qui a vu la face du Père. Si tu es là, je te regarde, je vois ton visage, je ne suis pas dans l'intimité. Mais ma fille, quand elle regarde mon visage, elle voit quelque chose que toi, tu ne vois pas. Elle sait quand je ne suis pas content. Elle sait quand je suis heureux. Parfois, on se jette des regards et puis elle me fait un petit sourire sur le côté. Ça, c'est l'intimité. Amen. Et voir la face du Père, c'est la chose la plus puissante, la plus belle chose qui puisse nous arriver, de voir la face de Dieu. C'est pour ça qu'il dit à David, cherchez ma face. Amen. Voir la face de ton père, c'est être dans son intimité. Et quand un parent dit à un de ses enfants, je ne veux plus te voir, c'est la chose, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. C'est la pire chose qui est arrivée à Jésus. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, et il était rempli de péché, et dès ce moment, le Père a tourné sa face. Et là, le Père dit, Jésus-Christ dit, « Oh Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que le Père avait tourné sa face. C'était la pire chose. Quand tu ne vois plus le Père, tu n'entends plus sa voix. Tu n'es plus dans son intimité. Tu n'as plus ses révélations. Tu n'as plus accès. Même les choses que tu avais pour habitude de prendre, tu ne pourras plus les prendre. Parce que tu sens qu'il y a maintenant un froid entre vous. Parce que tu n'es plus dans son intimité. Et dans la Bible, il y a quelqu'un qui a expérimenté ça. Dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 22, verset 24. 2 Samuel au chapitre 22, verset 24, il est écrit, écoutons bien, Joab tomba la face contre terre. Joab, c'était le chef d'armée de David. Joab tomba la face contre terre et se prosterna devant David. Et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Et Joab se leva et partit pour Geshur, et il ramena Absalom à Jérusalem. Absalom, c'est qui? Absalom, c'était le fils du roi. Et il avait commis un coup d'état contre son père. Mais le roi dit ensuite à Joab, en parlant d'Absalom, qu'il se retire de sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Au verset 28, plus loin, il est écrit, Absalom demeura 2 ans, dis avec moi 2 ans. 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi, son père. C'était la pire chose qui pouvait lui arriver. Et au verset 32, il est écrit, Absalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Geshur? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face de mon père et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. Mais je veux voir sa face. Ouais, est-ce que je vais dire ou pas? Voir la face du père, c'est quelque chose de très important. Si Dieu nous révèle ces choses-là dans l'Ancien Testament, vous imaginez sous la grâce en ce qui nous concerne nous. C'est pour cela que le père est la personne la plus importante qu'il faut chercher, avec qui il faut être intime. L'intimité, c'est le secret de la réussite. Quelqu'un qui est intime avec Dieu, c'est quelqu'un qui ira très loin. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ou bien parce que tu t'appelles pasteur. Non, c'est parce que tu as une intimité avec Dieu. Quand tu pries, tu sais ce qui se passe entre Dieu et toi. Et ce n'est pas prier fort, fort, fort. Hein. Oh Seigneur, je te bénis! Tout ça. Il y a des gens qui prient comme ça, non? Dès qu'on fait les réunions de prière, il veut toujours prier plus fort que tout le monde. Alléluia! Tout le monde dit, oh, mais c'est pas parce que tu fais ça que tu es plus spirituel que les autres. Hein. Il y a quelqu'un, il est assis dans son coin, la tête entre les jambes, la tête baissée, il prie. Mais sa prière est puissante, papa. Sa prière est puissante. Vous vous rappelez la parabole de Jésus? Du pécheur et du juif? Le premier vin, il dit, oh Seigneur, moi je donne ma dîme toutes les semaines, moi je vais à la synagogue, moi je jeûne trois fois par semaine, etc. Oh Seigneur, merci. Et puis l'autre vient, il se tapait la main sur la poitrine en disant, oh Seigneur, pardonne mon péché et accorde-moi la grâce, Seigneur, pardonne mon péché. Et Jésus-Christ dit, celui-là parti justifié, l'autre non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. L'intimité, dis avec moi l'intimité. 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 Jean au chapitre 4, au verset 22, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, dis avec moi, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous connaissons. Quand les gens viennent ici, ils nous voient adorer d'une certaine manière, ils nous voient prier d'une certaine manière, et puis ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est n'importe quoi. Ils ne connaissent pas. Nous connaissons ce que nous faisons. Amen. Ouais. l'intimité. Jacques, au chapitre 4, au verset 8, c'est Jacques qui parle. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. L'intimité. Et l'intimité, c'est ce qu'on doit chercher plus que tout. Amen. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu vas expérimenter en 2015 une intimité très particulière avec le Seigneur par sa grâce. Amen. Cinquième caractéristique de la grâce surabondante, elle active les promesses divines dans notre vie. Dis avec moi les promesses. Pourquoi j'utilise le mot activer? Parce que tout simplement, quand on entend le mot promesse, on a tendance à croire que c'est quelque chose qui n'est pas encore accompli. Mais la grâce surabondante nous amène à vivre des promesses qui sont accomplies. Quelles que soient les promesses qui ont été citées dans la parole de Dieu, elles sont accomplies dans notre vie. Amen. Et quand tu connais les promesses divines et la puissance de l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix, tu n'as plus besoin de prier pour obtenir les promesses. Elles sont déjà là. Tu as juste à les accepter. On ne prie pas pour un certain nombre de choses que Jésus-Christ a déjà accomplies. On ne prie pas pour avoir les promesses parce qu'on les a déjà. On prie pour qu'elles se manifestent par la grâce de Dieu dans notre vie. Où est-ce que je veux dire? On ne dit pas, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, donne-moi la prospérité. Seigneur, donne-moi la guérison. Non, tu es déjà guéri. Livre d'Exode, chapitre 26, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus-Christ, Ésaïe, chapitre 53, il a porté nos meurtrissures et nos maladies pour que nous soyons guéris. Donc, si tu veux avoir ta guérison, tu as juste à accepter et croire que tu es guéri. Et ça, c'est le fruit de la grâce. Amen. Donc, même si tu sens encore la douleur dans ton corps, tu te lèves et tu marches, tu sens encore la douleur. Mais le Seigneur dit, marche. Ce que tu sens, c'est dans ton corps. Mais la guérison est dans l'esprit. Rappelez-vous, la guérison est dans l'esprit. Quand l'esprit est impacté, ça ne fait que couler ensuite dans l'âme, puis au final dans le corps, et la personne expérimente la guérison. Mais la guérison ne peut pas intervenir en bas si dans l'esprit, ce n'est pas déjà verrouillé, si on n'y croit pas, et si on ne l'accepte pas. Amen. On peut même le croire dans l'esprit, et avoir un souci pour qu'elle passe au milieu chez l'âme. Parce qu'on peut aussi avoir des problèmes émotionnels qui sèment le doute au-dedans de nous, la peur, la crainte, la nostalgie, et qui empêchent à la guérison de passer et d'arriver jusque dans le corps. Où est-ce que je vais dire ou pas? C'est pour cela que les trois parties du corps doivent être totalement restaurées et guéries. Les trois parties de notre corps ont été rachetées par Jésus-Christ. Et tout ce que l'on vit dans le corps, l'esprit a la solution. Et d'où vient la solution? Elle vient de l'esprit. Et l'esprit, il est impacté par quoi? Par la parole. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et quand Dieu parle et que la parole arrive dans ton esprit, elle impacte ton esprit et la foi naît. La parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce que tu entends la parole de Dieu que l'esprit est impacté. Et quand l'esprit est impacté, la foi naît. Et quand la foi naît, elle va dans le corps et elle guérit le corps. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Voici le processus. C'est pour cela que si je commence à te dire ici, tu es guéri, comme ça, tu ne vas pas le croire et tu n'expérimenteras pas la guérison. Ce que je vais faire comme Jésus. Je vais d'abord commencer à t'enseigner. Et quand je vais t'enseigner là, tu vas entendre des choses, tu vas dire, et puis tu te lèves, tu dis, je suis guéri. Où est-ce que je vais dire ou pas? C'est comme ça que deux personnes peuvent avoir la même maladie, être assis côte à côte, mais l'un va expérimenter la guérison et l'autre pas. Parce que l'autre a entendu et a compris des choses que l'autre n'a pas entendues. Pourtant, les deux entendaient la même chose. Vous voyez ou pas? Amen. Les promesses, elles sont disponibles. Regardez, livre d'Hébreux, chapitre 8. Hébreux, chapitre 8, au verset 6. Il est écrit, mais maintenant, en parlant de Jésus, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. S'il dit établie sur de meilleures promesses, ça veut dire qu'il y avait d'autres promesses avant. C'était lesquelles? C'était les promesses des alliances précédentes. La loi. La loi disait que si tu obéis à la loi, alors tu vas avoir ça. Si tu marches comme ça avec l'Éternel, alors il te bénira ainsi, etc. Tu prends le livre de Deutéronome au chapitre 26, 27 et 28. Tu vas voir toutes les bénédictions et toutes les malédictions que Dieu promet. Il a promis les bénédictions, mais il a aussi promis les malédictions. Si tu te détournes de la face de ton Dieu, j'enverrai la mort sur ton chemin. Attends. C'est le genre de chapitre que tu zappes. Moi, je veux les bonnes choses seulement. Non, il faut lire ça aussi. Mais ça, c'était l'alliance de Moïse. Mais nous, nous ne sommes plus sous l'alliance de Moïse. Nous sommes sous l'alliance en Jésus-Christ qu'on appelle la grâce surabondante. Amen. Et cette grâce-là, cette alliance-là, il y avait aussi des promesses là-dedans. Et la particularité avec cette alliance que nous avons en Jésus-Christ, c'est qu'elles sont toutes accomplies dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. On parle de promesses quand il s'agit de la parole de quelqu'un qui s'est engagé à accomplir quelque chose envers nous. Et une promesse a toujours un temps qui lui est fixé. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un, tu lui garantis que ça va arriver à tel moment. Eh bien, quand tu ouvres ta Bible, tout ce que tu lis en ce qui concerne les promesses dedans, promesses de paix, promesses de prospérité, promesses d'abondance, promesses de guérison, promesses de paix dans ton foyer, etc., etc. Toutes ces promesses-là, le temps qui était fixé est déjà passé. C'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Yeah. C'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. Et depuis le jour où Jésus-Christ est ressuscité, quelles que soient les promesses, elles sont accomplies dans notre vie. Amen. Et quand Dieu a promis, c'était son honneur qui était engagé. C'était sa parole qui était engagée. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas violer, c'est sa parole. Et si Dieu s'était engagé en ce qui concerne nos en ce qui concerne son nom et les promesses qu'il avait faites à notre sujet, s'il n'avait pas respecté ces promesses-là, alors on aurait raison de ne pas croire en Dieu. Mais les promesses que Dieu a faites en Christ, elles sont toutes accomplies. Tu n'as plus besoin de douter sur quoi que ce soit. C'est déjà fait. Tu te demandes comment tu vas finir ta vie. Tu te demandes si tu finiras ta vie dans la misère, si tu auras ça ou pas ça. Crois juste que Dieu est ton pourvoyeur et qu'il va faire ce qu'il faut pour que tu finisses ta vie dans le bonheur. Tu te demandes comment tu vas faire pour avoir ta maison. Tu as vu, les terrains sont chers à Libreville. Trop cher, papa. Tu te dis, mais comment je vais faire pour construire ma maison un jour dans ce pays? On te sort des 100 millions, 300 millions. Tu n'as même pas commencé encore à acheter la maison. On te parle déjà de 200, 300 millions, rien que pour un terrain. Tu te dis, Seigneur, où est-ce que je vais trouver autant d'argent? Ne te demande pas comment tu vas faire pour trouver ça. Crois juste à la grâce. Et un jour, tu verras juste une faveur excellente qui va arriver sur toi. Une porte va s'ouvrir. Papa, tu vas rien comprendre. Tu vas juste dire à Dieu, oh Dieu, tu es fort. Moi, j'ai quelque chose avec dans ma tête. Hein? La maison que je vois dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, un jour le Saint-Esprit me dit, tu veux quoi comme maison? J'ai dit, Seigneur, je peux commander ma maison? Commande ta maison. D'accord? Je veux au moins 7 chambres. Plus une 8e pièce, juste pour toi, que j'appellerai la pièce de prière. Mm-hmm. Je veux une piscine à l'arrière, grande. Je veux une belle piscine. De sorte que quand on atterrit à l'aéroport, on voit ma piscine depuis l'avion. Je veux ça. je ne suis pas orgueilleux, hein, je vous fais ma commande. Seigneur, je veux un espace de jeu pour mes enfants. Hein? Je veux un salon pour eux et un salon pour moi, avec ma femme et mes invités. Je veux une salle de jeu où il y aura billard, baby foot, toutes ces choses-là. Seigneur, je veux... Dis avec moi, je veux... Je veux une cafette chez moi. Oui, avec les invités le samedi après-midi, on peut regarder des matchs de football dans notre cafette. Je veux ces choses-là. Je ne sais pas si chez toi, tu as la chaîne MTV. Tu vois la chaîne MTV, ils aiment souvent nous narguer les païens. Là. Et puis, ils te montrent les maisons de stars. Et puis, chez eux, ils ont même des salles de cinéma. Chez lui. Vraiment, j'ai dit, ah non, vraiment. Ça, c'est pas bien. C'est nous qui devons avoir ça. Oh. Et je vois ces choses-là. Et je lui dis, Seigneur, je refuse qu'un non-croyant qui ne croit même pas en toi, qui bafoue ton nom, il est ça. Et moi qui te sers toute ma vie, je n'ai même pas ça. De toute façon, ce que tu me le donnes ou que tu ne me le donnes pas, je te rends gloire. Mais je veux quand même. Ne soyons pas cupides. Amen. Mais c'est une bonne chose d'aimer les bonnes choses. Il faut aimer les bonnes choses dans la vie, gay. Ah! Il faut aimer les bonnes choses. Une fois, je suis allé manger avec quelqu'un dans un bon restaurant. Il était mal à l'aise. Tout le temps, il était en train de dire, oh gars, c'est cher, hein? Oh gars, c'est cher, hein? C'est cher. J'ai dit, arrête de dire que c'est cher, c'est quoi? Oh! C'est même pas toi qui paye, c'est moi qui t'ai invité. Je lui ai dit, prends le truc, commande, prends ce que tu veux. Il était là. Quand le serveur arrive, il demande, monsieur, vous prenez quoi? Alors, moi, je vais prendre ça. C'est combien encore ça? C'est combien encore? C'est quoi ton problème? Prends! Compliqué! Oh gars, c'est cher, hein? Il dit, au nom de Jésus, je mange ici. Ah, il faut aimer les bonnes choses, hein? Il dit, si dans l'esprit, c'est pas accepté, ça ne viendra pas à manifestation. Amen. Moi, j'ai déjà accepté ça. Vous voulez que je vous raconte encore l'histoire du jus d'orange au crayon? Un jour, le Seigneur me dit, tu aimes les bonnes choses? Oui. Va, place Vendôme au crayon. Tu rentres là-bas et tu vas dans une salle qu'on appelle la salle des VIP. Je suis rentré là-bas. Me voilà seul. On me regarde bizarre. On voit un jeune noir, un négro. Il vient dans le crayon. Et je rentre, je dis, excusez-moi. Là, tu prends un peu le ton de la voix qui va avec l'identité. Excusez-moi, je cherche la salle VIP. Oui, monsieur, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Et je le suis derrière. Tac, tac. Les gens me regardent. Ça, c'est qui, ça sent quoi? Tu vois, il n'y a que les gens des Émirats arabes, tous ces gens-là, multimilliardaires. Et puis, on voit un jeune homme qui rentre. Donc, les gens disent, mais ça, c'est qui? Nous, on connaît tout le monde ici. On ne connaît pas ce visage-là. J'ai dit, c'est normal, je viens du royaume des cieux. Et je vais m'asseoir dans la salle VIP, tamisée, lumière orange. Il n'y avait que des blancs. J'étais le seul qui faisait le pourcentage de noir. Et puis, je m'assois sur une belle table. Monsieur, vous voulez quoi? Non, juste avant, quand je rentre dans la salle, il y avait un monsieur avec un gros chapeau rouge, bien habillé. Et quand j'arrive près de la porte, il tire la porte comme ça, monsieur. Et je rentre. Il faut aimer les bonnes choses. Ah, j'ai dit tout ça, il faut que je veux ça dans ma vie. Et je m'assois et je croise les jambes. Mais je reste là. Il me dit, vous voulez quoi? Je dis, je veux un jus d'orange. Il me met le jus d'orange, je t'assure. C'est le plus bon jus d'orange que j'ai bu de toute ma vie. Je me suis assis. J'ai dégusté mon jus d'orange pendant une heure. Un verre comme ça, une heure. J'ai dit, j'étais là, il me dit, le Seigneur me dit, prends plaisir, prends. Parce que c'est ce que tu vas avoir. J'ai dit, oui, Seigneur, au nom de Jésus. J'étais là. Au bout d'une heure, l'addition, s'il vous plaît. Quand l'addition arrive, il pose ça sur ma table, dans un beau truc en cuir. Il ne te montre jamais ça, il te montre jamais le prix. C'est à toi d'ouvrir pour regarder le prix du jus d'orange. Et quand je regarde le jus d'orange, je vois le prix, je reviens et je fais... 15 euros le jus d'orange. 10 000 francs. 10 000 francs, petit jus d'orange. Ce n'était pas le CRS de ton malien. C'était le jus d'orange du crayon. 15 euros. J'ai payé mes 15 euros et je suis ressorti. Il me fait, bonne journée, monsieur. J'ai dit, ah ça, il faut que je vienne manger ici tous les jours. Je vais grossir comme quoi possible. Non, je n'ai pas grossir au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que tu vivras dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle active les promesses. Et enfin, on va finir avec la dernière. Que ce soit les promesses de fécondité, de santé divine, de guérison, elles sont accomplies dans ta vie. Sixième caractéristique, la grâce surabondante nous rétablit dans notre autorité de régent de la terre. Quand Dieu crée Adam, il dit à Adam, garde le jardin, règne sur la terre. Ce que je fais au ciel, tu le fais ici. Chacun d'entre nous ici, en Christ, vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez une autorité sur vous que Jésus-Christ nous a donnée pour pouvoir fermer les portes et ouvrir les portes qu'on veut. C'est le péché qui est venu atténuer ces choses-là. Mais celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il revient à la position initiale et il revêt à nouveau le manteau. La parabole du fils prodigue est l'une des paraboles les plus puissantes que Jésus-Christ a données. Parce que tout simplement, le fils prodigue avait péché. Il s'était détourné de son père, il avait pris l'héritage et il était parti le dilapider. Tu penses que c'est parce qu'il est parti dilapider l'héritage qu'il ne reste pas moins le fils de son père? Il est revenu, le père l'accueille avec joie, le père lui remet le manteau royal, la bague royale et il dit, tuons le veau gras et faisons la fête, mon fils est revenu à la vie. L'autorité là, parce que tu es fils, on pourra dire tout ce qu'on veut de toi, personne ne pourra jamais enlever les gènes et le sang qui coulent dans tes veines. Tu es fils de Dieu. Dis avec moi, je suis fils de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu es fils de Dieu. C'est pour ça que quand on te demande, tu es dans quelle religion? Tu dis, aucune. Je suis fils de Dieu. Jésus-Christ, c'est mon grand frère. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est mon grand frère. On est du même sang. C'est pour ça qu'avant de partir dans le livre de Jean, Jésus-Christ dit, maintenant que je m'en vais au Père, vous ferez les mêmes œuvres que je fais. Parce que nous sommes de la même famille. Moi, j'ai guéri les malades, vous pouvez aussi guérir les malades. J'ai chassé les démons, vous pouvez chasser les démons. Marc 16 dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils seront mordus par des serpents et il ne leur arrivera rien. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il était sur l'île, je ne sais plus le nom de l'île, il était en train de mettre du bois au feu et la Bible dit qu'une vipère sortit du feu et le mordit. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, quitte là! Il a jeté la vipère. Et il est retourné travailler. Les gens l'ont regardé, ils ont dit, oh, d'accord. Ça, c'est que... Toi, dès que tu vas le savoir... Hein? Non? Bon, si tu vois une vipère, assure-toi que tu crois vraiment... Assure-toi que c'est bien assis dans l'esprit là-bas, parce que, frère... La vipère est black power. C'est ce qu'on appelle la vipère du Gabon, là. Au nom de Jésus. Quand t'es un mec comme ça, là, tu dis, oh bon, c'est bon. Tu vois, donc, il y a une autorité. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il rajoute, et rien ne peut vous nuire. Rien. Dis avec moi, rien. Rien. Rien ne peut te nuire. Quelqu'un peut se lever dans Ngondje ici, il va commencer à faire la sorcellerie, il va commencer à tuer les gens. Toi, tu te lèves, tu dis, au nom de Jésus, la personne qui fait ça, je la lis. Et si elle ne se repent pas, c'est la mort qu'elle trouvera sur son chemin. Il y a toujours des chrétiens ignorants qui vont dire, oh, on est chrétien, comment on peut parler de la mort? On a toujours parlé de la vie, non? Je vais te donner une image. Tu ne veux pas parler de la mort? Ok, bon. Imagine qu'un jour, tu es chez toi, papa, maman et puis tes trois enfants. Et puis tu as un gars de Boko Haram qui vient avec un flingue, il rentre chez toi et il commence à pointer ça sur tes enfants. Toi aussi, tu as une arme. Tu fais quoi? On va parler d'amour et de Jésus ici. Tu prends le gun et tu le fusilles. Sinon, c'est toi qui le vas fusiller. D'accord? C'est pas de dire, oh Seigneur, je le tue d'abord, ensuite je me repens. Il n'y a pas de repentance là. C'est le diable. On ne se repent pas quand on bastonne le diable. Il faut le bastonner. ne faut pas avoir peur. Il est vaincu au nom de Jésus.
Amen.
Amen. Nous avons une autorité. Et cette autorité, nous l'avons à cause du nom que nous portons. D'où vient cette autorité? Elle vient de trois sources. La première, c'est notre statut de fils de Dieu créé à son image. Amen. La deuxième, elle vient de la présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si un jour tu rencontres quelqu'un qui te dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, éloigne-toi de lui. Le Saint-Esprit est Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre, c'est le Saint-Esprit. Et la troisième source, c'est le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le plus beau privilège que Jésus-Christ nous a laissé. Le nom de Jésus est composé de toute la plénitude de la puissance divine. Toute la puissance de l'univers a été renfermée dans ce nom-là. Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, le dernier chapitre, avant de faire l'ascension, avant de partir, Matthieu 28, avant de dire à ses disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Lis bien le verset qui vient avant. Le verset qui vient avant, Jésus-Christ dit, « Tout pouvoir, dis avec moi tout pouvoir, m'a été donné. » Il précise, « Dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. » Il faut bien lire la Bible. Hein? Tout pouvoir. Dis avec moi, tout pouvoir.
Tout pouvoir.
Et ce pouvoir-là est acquis dans son nom. Quand tu donnes le nom de Jésus, il y a un pouvoir qui est libéré au travers de ce nom. Oh, mais je sais de quoi je parle.
Amen.
Je vais te donner une image. Mon défunt père biologique a été quelqu'un de très important dans ce pays. Il a occupé des postes à très haute responsabilité. Ok? Il a été ambassadeur du Gabon en France, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays. Et il a fini sa carrière diplomatique en devenant général d'armée. 5 étoiles. Tout le monde le connaissait ici. Et un soir, il nous arrive une situation très particulière, c'est qu'avec mes frères, je n'étais pas encore chrétien. On était sortis. Et on rentrait de nos grooves. Et là, il y a un contrôle de police. Les policiers nous arrêtent. Et le policier qui nous arrête commence à nous embêter. Oh, on lui montre tous les papiers, etc. Il ne veut pas nous laisser partir. Il dit, oh, vous êtes des bandits, vous êtes sortis le soir, tout ça, etc. Moi, je vais vous mettre au newf. J'ai dit, mais oh, papa, on est fatigué, il est 4h du matin, laisse-nous rentrer à la maison. Donc, il dit, vous descendez la voiture, on va vous embarquer, tout ça. Mon, t'as fait quoi? Donc l'un de mes frères s'énerve, on commence à se disputer avec le policier. Et là, dans leur brigade, il y a un chef. Le chef entend le bruit et il arrive. Et il arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, oh monsieur, ce sont des jeunes impolis, on va les embarquer au poste. Le chef dit, ah bon? Vous êtes des enfants de qui? Et là, mon frère fait, regarde le képi qui est derrière la voiture. Le petit chapeau qui est toujours... mon père mettait toujours le chapeau à l'arrière. Avec les 5 étoiles. Et quand le policier arrive, il regarde, il fait, oh, frère. Il fait, vous êtes les enfants de qui? On donne le nom, le général Andias. Vous savez ce qu'il a fait? Il a regardé son coéquipier et puis il a giflé. Chat! Mais tu es fou! Est-ce que c'est les enfants de qui? Tu veux qu'on emmène les enfants du général au poste? Tu tiens à ta vie? Il a dit, excusez-nous, nous vous demandons pardon, remontez dans votre voiture et c'est parti. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Le nom qu'on portait. On n'est pas notre père, mais on porte son nom. Mais si des choses comme ça arrivent dans le monde, à plus forte raison le Dieu des cieux. Le nom de Jésus là, il dit dans Jean chapitre 14, au verset 13. Jean 14, au verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, dis en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En mon nom. C'est-à-dire, quand tu dis au nom de Jésus, le ciel s'arrête pour dire, ah, il y a quelqu'un qui a dit au nom de Jésus. On va voir ce qu'il va demander après ou ce qu'il va ordonner ou décréter. Quand tu dis au nom de Jésus, tu as déjà Mickaël et les autres qui se mettent déjà comme ça. Eux, ils sont ministère de la défense. Ils aiment la bataille. C'est pour ça que chaque fois qu'on les a représentés dans la Bible, chaque fois qu'il y a eu une révélation de Mickaël, c'était toujours dans une situation de combat. Il est le ministre en chef de la défense au ciel, Mickaël. Gabriel, c'est le ministre en chef de la communication. Tous les messages importants, c'est lui qui est parti donner. Tu ne savais pas ça? Oh. Tu n'as pas remarqué qu'il y a plein d'anges qui ont apparu dans la Bible, on n'a jamais donné leur nom. Eux, c'était juste des agents qu'on envoie. Tu vois un peu comme tu envoies le chauffeur et puis bon. Mais il y a des anges au ciel, il fallait qu'on donne leur nom. Oui. Oh. Quand il y a un événement important à communiquer, c'est le ministre de la communication, le porte-parole du gouvernement. Et Gabriel, c'est le porte-parole du gouvernement, le ministre en chef de la communication. Quand il faut délivrer le message à Marie, c'est lui qu'on envoie. Quand il faut délivrer le message à Joseph, c'est lui qu'on envoie. Amen. Donc quand tu vas aller au ciel, là, le jour où tu vas rencontrer Gabriel, il ne faut pas jouer avec lui, c'est quelqu'un de très stratégique. Ah oui. Le nom là, dans ce nom là, il y a toute la puissance. Et quand tu viens devant l'enfer, devant une situation, devant un démon, je ne sais pas, et que tu dis au nom de Jésus, crois que dans ce nom, il y a toute la puissance du ciel qui est dedans. Et c'est ça que la grâce soit abondante rétablit. Elle te revêt le manteau. Hier, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ici. Que cette personne sache que dès le moment où elle a dit, je te donne ma vie, désormais je suis ton fils dans le royaume. Sache que dans l'invisible, il y a un ange qui est venu te revêtir d'un manteau de pourpre, parce que le pourpre, c'est la couleur de la royauté. Et maintenant, quand tu marches, tu as ce manteau-là. Je vais vous raconter une histoire. Je l'avais déjà peut-être déjà raconté ici, en Côte d'Ivoire. Une femme était dans un bus, en train de rentrer chez elle, elle sortait du travail. Véridique cette histoire. Et là, il y avait un monsieur, au moment où le bus s'arrête, le monsieur se lève et il veut voler son sac. Boum, il prend le sac. Elle aussi, elle dit, oh, un voleur, un voleur. Devant tout le monde. Il tire le sac de la dame. Les gens se restent là, oh, il réagit, ils sont là, oh. Et tout d'un coup, le voleur, un crastard, hein. Encore les bons ivoiriens là. Un castard, il se tourne, il met un coup de poing à la femme, boum! Et il prend le sac. Et au moment où il veut partir, elle prend le coup. Elle s'est montée juste. Elle s'est levée, elle s'est retournée. Et puis elle a dit, au nom de Jésus, je te lis! Le gars est tombé raide sur la boum! C'est venu des tripes. Je te dis que l'histoire, c'est un pasteur qui nous raconte ça parce qu'il était là. Il dit qu'il est resté comme il a dit. Le gars était comme ça par terre. Par terre. Je te dis, les gens sont restés tétanisés. Ils ont dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Les gens disaient, ça c'est la sorcellerie ça. Le gars était, les gens le touchaient, il était devenu dur. Les policiers sont venus. Les policiers arrivent, ils vont, ça, c'est quoi ça? C'est qui a fait ça? C'est la femme là? Madame, on vous emmène au poste. Vous avez fait quoi, monsieur? Mais il voulait me voler mon sac, non? Ça apprendra. Jésus-Christ l'a lié. Les policiers étaient là. Madame, mais de vous même? Elle dit, moi, je ne sais comment les lier. Je ne sais pas comment les délier. Je ne sais pas comment les délier. Comment il a, moi je, mais vous avez fait comment? Je suis dit au nom de Jésus. Mais dites encore au nom de Jésus. Donc le gars est resté comme ça. Donc on l'a soulevé, on l'a emmené comme sur un brancard et tout. On l'a emmené et tout. Et puis la femme, madame, on va vous emmener au poste, vous interroger parce que vraiment, vous êtes quelqu'un de bizarre. Donc on a emmené le gars, on ne sait pas comment l'histoire s'est terminée. Tout ce qu'on sait seulement, c'est que le gars était lié. Le nom de Jésus là, dis avec moi, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ouais. Et de même, sache que chaque fois que tu dis le nom de Jésus-Christ, toute la puissance des cieux et toute l'armada du ciel se met en branle juste pour toi.
Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, je voudrais maintenant qu'on prie, que tu brilles et que tu réalises que Depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton statut de fils est rétabli. Ton autorité est rétablie. Les promesses, elles sont toutes activées. Tu n'as plus rien à craindre, car la grâce de Dieu repose sur toi en Christ. Un jour, il y avait un jeune homme qu'on appelle Moïse dans la Bible. Et ce jeune homme rencontre Dieu. Et Dieu lui dit, va à la rencontre de mon peuple et délivre-le. Et Moïse dit, Seigneur, mais avec quoi irai-je? Et la Bible nous raconte dans le livre de Exode, chapitre 4, que Moïse dit à Dieu, voici, les gens ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils diront, l'Éternel ne m'est pas apparu. Et Dieu là lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Qu'y a-t-il dans ta main? Une verge. Et l'Éternel lui dit, jette la verge par terre. Il la jeta par terre et elle se transforma en serpent. Il eut peur. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur. Car ce que tu as entre tes mains, tu ne te rends même pas compte de ce que tu as entre tes mains. Et il lui dit à nouveau, étends ta main et saisis-le par la queue. Il saisit le serpent par la queue et le serpent redevint une verge dans sa main. Et Dieu lui dit, voici, c'est avec ça que je t'envoie. Et nous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes enfants de Dieu et nous ne réalisons même pas de ce que nous avons entre nos mains. La puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Les promesses que Dieu a déversées dans notre vie. Nous vivons toutes sortes de frustrations, toutes sortes de stress, toutes sortes de peurs. Nous refusons de marcher par la foi, de nous engager dans notre foi à suivre Jésus parce que nous nous laissons tellement influencés par les choses du dehors, les choses du monde. Oh, faut pas croire en Jésus, faut pas croire en l'église, laisse ça, c'est la religion, ce sont des illuminés, tous ces gens. Mais c'est faux. Jésus-Christ est bien réel. Et la plus belle décision que tu pourrais prendre dans ta vie, c'est de le suivre. Et depuis le jour où tu l'as suivi, il t'a revêtu d'un manteau de pourpre. Tu as un bâton entre ta main qu'on appelle la verge divine, appelée du nom de Jésus-Christ. Et ce nom te donne accès à tout. Il y a une puissance dans ce nom. Que ce soit une maladie, que ce soit une situation compliquée, que ce soit un problème professionnel, que ce soit un projet en termes d'affaires, que ce soit une porte dans ta vie qui doit s'ouvrir, juste croire que dans ce nom, il y a toute la grâce surabondante que Dieu a déposée dans ta vie. Alors prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence, Seigneur, aux simples. Oh, Père, merci. Merci, Seigneur, parce que tu ne regardes pas, Seigneur, à nos fautes ni à nos transgressions. Tu nous rétablis, Seigneur, à notre position initiale, Seigneur. Et nous te bénissons pour ça, Père de grâce. Oh, Père, tu es la source de la vie, Père. Tu es la source de la paix. Tu es la source de toutes choses. Et c'est toi que nous appelons. C'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour ta grâce. Car ta grâce nous suffit pleinement, Seigneur. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Que cette parole que nous avons prononcée s'asseye dans ton cœur. Qu'elle s'asseye dans nos cœurs. Par la grâce de Dieu. Merci Père, tu as les paroles de la vie. Ta parole vient et touche notre esprit, l'esprit que nous sommes, et elle suscite en nous la foi. Cette foi affecte nos âmes, guérit les esprits, puis impacte notre corps. Merci parce que ces paroles qui sont esprit et vie, Père, nous en verrons les fruits dans nos vies. Ce n'est qu'une question de temps, Seigneur. Mais accorde-nous la grâce par la foi de croire en ces choses et de les vivre ensuite dans nos vies. Tu as les paroles de la vie. Tes paroles donnent la vie. Tes paroles guérissent, tes paroles restaurent, tes paroles relèvent et tes paroles nous encouragent, Seigneur. Alors nous te disons merci pour ces paroles qui nous encouragent, qui nous font comprendre et qui nous aident à réaliser notre identité en Christ, Seigneur. Notre identité en Christ,
merci pour la révélation de l'intimité avec toi, Père. Accorde-nous la grâce tout au long de cette semaine et tout au long de mois à venir à cultiver cette intimité avec toi, profonde, Seigneur, et de la développer. Et de commencer à coopérer avec toi, Seigneur, dans des dimensions auxquelles nous ne nous y attendons même pas. Merci pour la puissance du nom de Jésus-Christ. Accorde la grâce de comprendre la puissance qu'il y a dans ce nom, Seigneur. Et lorsque nous prononçons, lorsque nous décrétons, lorsque nous déclarons au travers de ce nom, nous voyons les choses accomplies par ta grâce. Merci pour la grâce surabondante. À toi sur toute la gloire, à toi sur toute la louange, pour la vie que tu as commencé dans nos vies et que tu vas parfaite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié avec la Seigneur. Et amen.
Espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.